Le grand dialogue.
Sigikafoba.
Et de Wani Wamakaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halud Mouni.
Chienne Berry. Sigikafoba.
Le grand dialogue.
Comme tous les vendredis, mesdames et messieurs, aujourd'hui c'est le forum de la presse des journalistes qui donnent leur point de vue sur l'actualité qui a marqué la semaine, en tout cas l'essentiel de l'actualité. Nous parlerons ce soir de la sécurité, de la rentrée scolaire et si le temps nous le permet, de la grève des magistrats. Nos invités sont Hassan Kone de NotreNation.com et le journal Arc-en-Ciel, Lanfia Sinaba, journaliste écrivain, Badou Escoba du Carrefour et Mamoudou Bokoum, journaliste et coordinateur régional de l'URTEL à Mopti. Je suis Mouhamadou Touré, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue.
Le grand dialogue.
Alors, je le disais, on va commencer par la sécurité. 27 civils tués à Ménaka cette semaine, 7 militaires tués à Mopti, 120 parachutistes déployés à Ménaka. Et on parle du cessez-le-feu avec la milice d'Anna Amasagoul. Alors, à vous, Lanfia Sinaba, que pensez-vous de la situation sécuritaire? Comment évolue-t-elle?
Elle évolue de façon négative, il faut le dire, parce que en une semaine, autant de morts, c'est comme s'il y a une sorte de comment on appelle le mot, la violence, la récrudescence de la violence, et cette récrudescence intervient à un moment où on veut vraiment aller de façon progressive dans la mise en œuvre de l'accord. C'est là où les acteurs impliqués dans la mise en œuvre de l'accord, l'ensemble des acteurs, que ce soit des signataires au niveau malien, que ce soit les partenaires à l'étranger, les partenaires internationaux, que chacun vraiment se mobilise davantage, parce qu'il y a ceux qui ne sont pas pour la paix, qui sont aussi de l'autre côté, qui font tout pour s'appuyer. Je pense que cette recrudescence-là doit s'expliquer aussi par cette volonté de torpiller l'évolution, parce qu'on se rappelle, il y a quelques semaines, le secrétaire général adjoint de l'ONU était là. Il a dit qu'il veut des résultats concrets, des progrès dans la mise en œuvre de l'accord d'ici 6 mois. Et s'il y a des actions comme ça, c'est de nature vraiment à remettre en cause les acquis. Surtout que c'est des acquis qui sont vraiment assez précaires.
D'accord. Bah vous, Hassan Kone, quelle analyse faites-vous de cette situation?
Oui, merci. Moi, je interprète cette situation comme c'est un coup de gong, hein. Comme c'est pour nous dire que la récréation est terminée. Parce qu'on a vu pendant la période des élections, la période de la campagne, la période même des votes, il y avait vraiment une accalmie. On avait même eu l'impression qu'on n'allait plus parler d'insécurité au Mali. Mais malheureusement, depuis quelques jours, on constate qu'il y a une certaine recrudescence, comme si c'était un signal qu'on voulait donner à l'État du Mali pour dire que la récréation est terminée. On reprend nos activités.
Est-ce que les bandits armés, les présumés terroristes, ont voulu également observer une pause pendant la campagne pour reprendre maintenant?
Oui, bon, c'est tout ça la complexité de ce dossier. Parce qu'on a eu l'impression qu'il y a même eu un deal pendant la période électorale. Et effectivement, pendant la période électorale, il n'y a pas eu de mouvement, il n'y a pas eu d'action sur le terrain. Et subitement, après l'investiture, après tout ce qu'on sait, et on sent une recrudescence, comme s'ils veulent rappeler à quelqu'un que, bon, on est là, on existe. Ne pensez pas que nous avions vraiment arrêté d'être en mouvement. D'accord. Voilà un peu le problème. Et en même temps aussi, bon, comme les Bambara le disent, Dundu Golobatoyes a blatement fanamassé, quoi. Parce qu'avec cette intervention des parachutistes français à Ménaka, je pense qu'il aura quelque chose de ce côté, dans le sens de l'accalmie.
D'accord. Mamoudou Bokoum, vous êtes à Mopti. Est-ce que vous avez l'impression que la situation s'est améliorée ou s'est davantage détériorée sur place là-bas?
Ok, ici, au niveau de la région de Mopti, on n'observe plus, en tout cas jusqu'à une date récente, on n'observe plus donc des attaques sur le terrain, à des enlèvements, à des assassinats ciblés. Subitement, avec ces réactions de ces groupes armés, plutôt de ces hommes armés sur le terrain dans ces derniers jours, donc ça nous laisse un peu perplexes, parce que on ne voit pas d'attaque, mais jusqu'à présent, au niveau du delta intérieur du Niger, Niger. Je crois que l'État n'a pas de mainmise sur la majeure partie, sinon la presque totalité des localités qui sont derrière le fleuve de Mopti. Donc il n'y a pas d'attaque, c'est vrai, mais l'État aussi n'est pas présent. Je ne sais pas comment qualifier ça. De toute façon, les attaques se sont calmées, mais jusqu'à présent, on est dans la même situation de peur, on est dans la même situation de méfiance. Personne n'ose traverser, en tout cas, pour aller de l'autre côté du fleuve si ce n'est pas quand même un vrai, vrai habitué du coin. Et l'État également n'y est pas, donc c'est un peu compliqué, quoi. La situation est certainement calme, est certes calme, mais bon, jusqu'à présent, on est dans cette situation vraiment de méfiance.
Est-ce que la déclaration du président de la République lors de son investiture en disant que la sécurisation du pays est une de ses priorités a rassuré la population de Mopti?
Nous, on a assez entendu, en tout cas dans la région de Mopti, ici, hein, on a entendu toutes ces déclarations, même lors des élections. 36 000 hommes qui ont été annoncés. Ça n'a pas empêché à la région de Mopti d'avoir le plus grand nombre de bureaux de vote qui n'ont pas été ouverts. Donc, il y a non seulement l'aspect géographique qui fait ça, donc l'accessibilité des zones est un peu compliquée, mais aussi, surtout, l'aspect sécuritaire. Donc, ces déclarations, on en a entendu dans la région, mais ça continue toujours. En tout cas, les déclarations ne nous rassurent plus. Nous voulons des actions concrètes.
D'accord, Lamphia Sinaba. Est-ce que vous pensez que cette situation est prise sérieusement en compte par le gouvernement?
Non, prise en compte sérieusement par le gouvernement. On va le dire, oui, parce que il y a des militaires qu'on voit, des actions qu'on voit, mais il faut reconnaître que c'est des actions qui ne sont pas, jusqu'à preuve du contraire, des actions qui ont pu apporter les résultats escomptés. C'est là où, même si on peut ne pas douter de la sincérité, toujours est-il que les actions mises en œuvre ne rassurent pas. Donc, est-ce que ce n'est pas pris en compte par le gouvernement? On ne pourra pas le dire, du moment où il y a des actions qui sont en cours, mais malheureusement, c'est des actions qui ne sont pas de nature à donner satisfaction comme on le souhaitait. Donc c'est très difficile. On ne peut pas dire que oui, on ne peut pas dire non directement aussi.
D'accord. Alors, Hassan Kone, est-ce que les acteurs du processus de paix sont suffisamment engagés, selon vous, pour parvenir à une paix dans le pays?
Sur cette question, moi, je pense sincèrement qu'il y a un problème d'engagement. Et il est clair, hein, du côté de l'État malien, c'est clair que l'État se bat pour l'unité du pays. L'État se bat pour une certaine accalmie. L'État travaille pour le retour de la paix rapide. Mais en face de l'État malien, nous n'avions pas la conviction que tous les acteurs sont à ce niveau d'engagement. Parce que n'oubliez pas, hein, on a souvent l'impression qu'on oublie très vite l'historique de cette crise. On a vu un groupe qui, à un moment donné, a réclamé une indépendance. On a ensuite vu l'intervention des djihadistes ou des terroristes dans le champ de la crise malienne. Et après, on a vu une confusion totale qui s'est installée entre le groupe qui demandait l'indépendance et les djihadistes. Et après, ils ont essayé de... Je le dis, la communauté internationale a essayé de légitimer certaines luttes. Donc il est clair que on a vraiment bougé, mais il n'y a pas quelque chose de concret qu'on peut palper. Donc les acteurs ne sont pas au même niveau d'engagement. Est-ce qu'il est sûr et certain que ceux qui demandaient en 2012 l'indépendance de l'Azawad sont dans une logique véritable d'aller à un État unitaire avec le Mali et dans les conditions de paix que nous voulons tous?
Parce que la question qui se pose également, c'est pourquoi ils ne déposent pas les armes et pourquoi après 27 rencontres, 27e session du CSA, ils n'arrivent toujours pas à avancer comme l'a dénoncé le secrétaire général de l'ONU?
Bon, ils ne vont pas déposer les armes parce que c'est à cause des armes qu'ils existent dans le débat. S'ils n'ont plus leurs armes en main, ils deviennent comme toi et moi, qui va les écouter? En réalité, ces armes sont pour eux un moyen de pression sur l'état du Mali. Ça, c'est un. Eux de deux, il est clair aussi que les différentes parties ne vont pas s'entendre facilement parce que, comme on l'a eu à le dire depuis un certain temps, moi, je doute fort. Ça n'engage que moi, que cet accord dont on parle tant ait été sécrété par les parties belligérantes. X et Y ne peuvent pas se mettre d'accord sur un document et prendre 27 mois et ne pas pouvoir l'appliquer. Donc la question, d'où est venu cet accord? Est-ce que cet accord est l'accord qui a été sécrété par les parties belligérantes? Là est la grande question. Si l'accord n'a pas été sécrété par les parties belligérantes, il faut maintenant créer les conditions pour que les parties belligérantes endossent cet accord. Créer les conditions pour que les parties belligérantes prennent cet accord comme si c'est un document qu'ils ont sécrété. Et je pense que c'est là le gros blocage. Je suis convaincu qu'il y a des termes dans cet accord. Ni l'État du Mali, ni les groupes armés ne sont d'accord avec ces termes. Et comme chacun a peur de la communauté internationale, chacun va faire semblant comme s'il veut appliquer l'accord, mais personne ne l'appliquera au finish.
D'accord. Mamoudou Boukoum, la CMA a clairement dit qu'elle n'est pas impliquée dans les différentes attaques qui se multiplient dans le pays. Pourtant, avec la descente des parachutistes, il y a 9 combattants de la CMA qui ont été arrêtés. Alors, est-ce que ça prouve qu'ils peuvent avoir, ces combattants-là, un lien avec ces différentes attaques?
Attends, il faut faire la part des choses. L'aile politique de la CMA et l'aile militaire, on dirait que quelque part, ça ne va pas. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que l'aile politique s'engage à appliquer les accords, quand même si c'est 27 mois après, et que qu'il y ait des combattants qui de cette même organisation qui soient interpellés en train de combattre, en tout cas, l'État malien. Donc, ça veut dire que quelque part, entre eux, le message ne passe pas. Est-ce la CMA qui est donc à Bamako? Elle représente, elle peut répondre au nom et aux aspirations de la CMA qui se trouve sur le terrain dans quelques régions du Nord. C'est ça la grande question. En tout cas, il y a un guicheros dans cette organisation. Il faut que les gens, les uns et les autres soient sincères. Des deux choses l'une. Soit la CMA qui est à Bamako ne représente pas celle qui est au Nord, soit celle qui est au Nord ne respecte pas les décisions ou les décisions prises de façon entre guillemets unilatérale par ceux-là qui sont à Bamako, qui sont quand même dans toutes les conditions, des bonnes conditions de vivre. Donc ça veut dire que quelque part, le courant ne passe pas entre eux si réellement ce sont les hommes de la CMA, quelques éléments de la CMA qui ont été interpellés avec la descente des parachutistes français. Donc vraiment la sincérité, moi je doute un peu de la sincérité de beaucoup de partis signataires de cet accord, même de beaucoup de partis, j'ai dit, hein, il faut comprendre comme ça.
D'accord. Alors, pardonnez, j'oublie le nom. Lamfia Sinaba, est-ce que la représentativité doit être remise en cause, comme le pense beaucoup?
Vous savez, avec les groupes armés, il y a un problème. C'est-à-dire que l'aile politique s'engage à un niveau, mais n'oubliez pas que c'est des hommes qui sont armés, qui sont dans la brousse, arrivent à un moment donné, s'il y a rupture, je ne vais pas citer de nom de groupe, mais on se rappelle, il y a plusieurs attaques qui ont été menées par des éléments isolés de ces groupes armés-là, parce que tout simplement, les responsables à un niveau n'acheminaient pas les ravitaillements. Donc c'est des hommes qui sont en armes, ils sont en difficulté, ils ont faim, ils ont soif. À un moment donné, ils se lèvent, ils vont braquer un véhicule, et avec ce Tarzan-là, ils font quelques jours de mouvement avec ça. En réalité, l'un des gros problèmes, c'est cela aussi. Le fait que c'est des gens qui sont là, qui sont armés, mais qui ne sont pas dans les conditions. Quand ça ne va pas, ils vont braquer quelque part. Très souvent, on dit attaque terroriste, mais en réalité, c'est des attaques menées par des éléments isolés de ces groupes armés-là. Et la plupart des cas, lorsque les forains, autres voyageurs ou encore citoyens ne refusent pas, obtempèrent, il n'y a pas très souvent, il n'y a pas de perte en vie humaine. C'est des éléments, des enlèvements, on enlève l'argent, on les rançonne, on les enlève. On les dépouille, c'est le mot que je cherchais, mais on ne les tue pas. Très souvent, c'est comme ça. Donc, je pense qu'à ce niveau, la question de la représentativité, ça pose beaucoup. C'est pour cela qu'il faudrait qu'on aille vite, qu'on sorte de cette situation-là, comme vous l'avez dit tantôt, qu'on les désarme. pour les désarmer, il faudrait qu'on aille au processus de DDR. Malheureusement, ça devait être l'un des aspects, dès le début, qui n'a pas vraiment été appliqué comme il faut. Maintenant, puisque l'ensemble des acteurs sont unanimes là-dessus, qu'il faut appliquer les accords, qu'il faut appliquer l'accord et qu'il faut aller de façon prioritaire, par priorité. Je pense que l'une des priorités aujourd'hui, c'est de cantonner ces hommes et les désarmer et vraiment procéder véritablement au processus de DDR.
Est-ce que vous pensez, comme Hassan Kone, qu'il y a lieu de remettre en cause également l'accord pour la paix?
Bon, moi je pense que si on joue avec l'intelligence nécessaire et la bonne volonté, la bonne foi, on est en tête que l'objectif final, c'est le Mali indivisible. Je pense qu'il y a certains termes, c'est une question de contenu. Parce qu'on se rappelle, hein, quand l'accord a été signé le 15 mai, il y a certains acteurs, pour ne pas dire les principaux acteurs du groupe armé, ce n'est pas pour dénigrer les autres, n'ont pas signé. Il a fallu qu'il y ait d'autres négociations pour qu'ils viennent signer encore le 15. Donc, s'il y a des éléments du genre qui entrent en ligne de compte quelque part, ça peut aussi amener des frustrations, ça peut amener des blocages. Parce qu'on se rappelle, il y avait un document qui avait circulé, là où on demandait à ce qu'il y ait 80 ou 90% des éléments des forces armées au niveau du Nord, que ce soit des éléments de l'Azawad. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un jeu de mots. Au lieu de dire 90 ou 80%, on a dit majoritairement. Au lieu de dire l'Azawad, on a des régions du Nord. Donc pratiquement, ça revient au même. Et ce qui sous-entend quelque part, quand on regarde les termes de ce document-là, qui fait référence à la langue, à l'autonomie et probablement à autre chose. Donc je pense qu'il y a des petits pièges aussi qui font que lorsqu'on se retrouve, si on ne met pas le Mali au-dessus de tout, ça risque d'amener des blocages.
D'accord. Hassan, quand on voit ce processus, est-ce qu'on sait où est-ce qu'on doit aller? Est-ce qu'on n'a pas l'impression de voir un jeu de ping-pong où, du jour au jour, on fixe des règles et une stratégie?
Et moi, je pense sincèrement que il faut que l'État du Mali s'assume. Il faut que l'État du Mali s'assume. Il faut que l'État du Mali ait un peu plus de courage. Il faut que l'État du Mali soit franc avec la communauté internationale. Enfin, que la communauté internationale soit franche avec l'État du Mali. Ce qui est possible de faire, que l'État du Mali le dise clairement. Ce qui n'est pas possible de faire, que l'État du Mali le dise clairement et s'assume. Comme Lafia le dit, 80-90% des éléments des forces de sécurité dans le nord du Mali doivent provenir de l'Azawad. L'Azawad est où? L'Azawad commence où et s'arrête où? Voilà des termes qui ne devaient pas venir dans un accord aussi précieux et sérieux. Voilà pourquoi je dis qu'il serait intéressant qu'on ouvre, que la communauté internationale accepte que les parties belligérantes se retrouvent autour de cet accord-là et se remettent d'accord sur certains thèmes. Sinon, on a fait 27 mois, on va faire 27 ans sans pouvoir l'appliquer.
D'accord. Boukoum, vous, qu'en pensez-vous?
Bon, c'est ce que j'ai dit. Hein. Il y a le doute. Moi, je suis très sceptique de la sincérité de presque toutes les parties. S'agissant de la question de la droite, moi, je crois que la conférence d'entente nationale l'a tranché. Hein. Peut-être que l'État ne veut pas s'assumer. La conférence d'entente nationale du commun accord, il y a eu quand même un atelier complet, un groupe de personnes venues de toutes les horizons, y compris des éléments de la CIMA, des éléments qui se réclament de l'Azawad. On a dit que l'Azawad est reconnu comme une entité socio-culturelle, comme le Kénédougou, le Kounari, le Massina, etc. Mais le président de la République, lors de son discours de clôture, il dit que même si les gens ne sont pas d'accord sur la question, c'est là où est parti le problème. Il faut pas qu'on l'oublie. On a participé à la conférence d'entente nationale de long en large. Donc, il faut que, Hassan l'a dit, il faut que l'État soit courageux de dire, bon, on a dit ça, on ne peut pas faire ça, pour qu'on puisse revoir qu'est-ce qui peut être fait et comment ça peut être fait et quand pourront-on mettre ça en œuvre. Donc, si l'État ne parvient pas à le faire, par, je ne sais pas, pour séduire la communauté internationale ou pour soudoyer un peu les groupes armés, et à l'application, ça va poser des problèmes. Moi, je ne vois pas en quoi il y a l'importance de signer un accord. Ça n'a pas d'importance. Il faut que les gens et les autres soient courageux. Il faut que les uns et les autres soient sincères dans l'application de cet accord. Même si l'accord continue toujours à être critiqué, on suppose que c'est une base sur laquelle on peut amener la paix au Mali. Donc, qu'on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre. Par exemple, ils ont parlé de DDR, le désarmement de mobilisation, là. La MINUSMA qui était en charge de construire ces sites-là. On est à combien de sites réalisés? On est à combien de sites aujourd'hui? Depuis très longtemps, ça vaut près de combien d'années maintenant? Une année, presque deux ans déjà. On ne sait pas combien de sites est disponible, combien d'éléments vont être cantonnés, désarmés. Donc, tant que chacune des parties, et l'État, les groupes armés et la communauté internationale, tant que chacun ne joue pas sa partition, chacun ne devient pas sincère, ça va être très, très compliqué de faire bouger, même ne serait-ce qu'une seule ligne, comment on appelle l'application de cet accord.
L'Amphia veut réagir.
Oui, par rapport à l'Azawad, c'est vrai, le président, il a dit à la sortie de la concertation, la conférence d'entente nationale, qu'il n'y a pas eu unanimité, effectivement, parce que les gens de la CIMA ont fait savoir qu'ils ne se reconnaissent pas dans cette appellation de l'Azawad, parce qu'on a défini l'Azawad comme étant un terroir comme le Djitumou, le Ouagadougou, et ils ne sont pas dans cette appellation, dans cette optique, mais plutôt l'Azawad en tant qu'entité, en tant que zone, en tant que... Vraiment, ce n'est pas la même conception. Donc je pense que beaucoup, moi, sur ce point, on n'a pas encore... évoluer. Il y a toujours une discussion autour de, du mot Azawad. Mais ce que je voudrais dire ici, que je ne voudrais pas, c'est que dans cette histoire d'accord, il y a autre chose aussi qu'il est bon peut-être que les Maliens sachent. Qu'est-ce qui se passe à la fin de ces rencontres-là, le comité du CSA? Mais c'est aussi une affaire de gros sous qu'on donne. Maintenant, s'il y a ça, est-ce que les participants qui viennent vont accepter qu'on aille à la mise en œuvre et qu'on termine avec ça?
Ils n'ont pas intérêt à ce que ça prenne fin.
Est-ce qu'ils ont, intérêt à ce que ça prenne fin? Parce que ça, je pense, on va peut-être dire que je trahis un secret. Il y a un confrère, à la fin d'une rencontre, il a vu vraiment quelque chose. Il dit, c'est comme ça. Hey, il dit, Limele Kataki Davona. Vous voyez, donc, quelque part,
donc,
il y a aussi...
lui, il a observé ça, on lui a donné un sou pour lui demander de se taire.
C'est pour dire que, quelque part, il y a aussi une histoire de sous. Et tant qu'il y a cette histoire de sous aussi, certains acteurs, je ne dirais pas tous, mais certains acteurs feront tout pour que les choses puissent traîner. Et ça, c'est une réalité qui a été vécue au cours d'une session.
D'accord. Alors, est-ce qu'on peut croire, être optimiste face à la déclaration du secrétaire général de l'ONU et certains responsables des groupes armés qui disent que dans 6 à 9 mois, on verra une évolution positive?
Non, en réalité, l'optimisme est permis. L'optimisme est permis. Il est clair que le Mali de 2018, ce n'est pas le Mali de 2012. La situation de la crise au nord du Mali en 2018 n'est pas la même situation qu'en 2012-2013. Donc, il est clair qu'on a énormément évolué. On a énormément évolué, mais il faut que dans cette évolution, qu'on sache vraiment où on va. Le peuple malien n'a pas la certitude que le dispositif qui est mis en place dans l'accord, si ça ne nous amène pas à une certaine autonomie qui va glisser vers une indépendance qui ne dit pas son nom. Voilà un peu la grande inquiétude du peuple malien. C'est ça la grande inquiétude du peuple malien. Est-ce que l'accord... De la manière que cet accord-là est élaboré, est-ce que ça ne va pas faire glisser l'État du Mali vers une certaine autonomisation de cette région du Mali qui va aboutir à une indépendance un jour? Parce qu'en réalité, je ne peux pas comprendre. X et Y s'asseyent autour d'une table, décident de l'élaboration d'un accord et prennent 27 mois et n'arrivent pas à l'appliquer. C'est qu'il y a Anguille Souroche.
D'accord. Observons une courte pause avant d'aborder la seconde partie de ce débat.
Réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio
Tamani.
Le Forum de la presse. Et pour cette seconde partie, nous allons aborder la rentrée des classes, des écoles qui restent fermées, des enfants qui n'arrivent pas à aller à l'école, les enseignants qui refusent de partir dans des zones où l'État n'est pas présent, alors que l'État appelle ses enseignants à partir, notamment la zone la plus concernée est la région de Mopti. Mamoudou Bokoum, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu?
Bon, par rapport à l'ouverture, et je rebondis sur la dernière phrase de Hassan qui dit que le Mali de 2012 n'est pas le Mali de 2018 et la crise au nord de 2012 n'est pas le Mali, la crise au nord de 2018. Mais il faut que je lui rappelle que la crise aujourd'hui au centre de 2012 est mille fois meilleure que la crise aujourd'hui de 2018 au centre du Mali. Donc ce qui fait que même ces écoles, le sujet qu'on est en train de débattre, ce deuxième sujet-là, l'ouverture des classes, c'est le lundi. Il y a plus de 200 écoles qui sont fermées dans la région de Mopti à cause de l'insécurité. Deuxièmement, c'est vrai, il y a eu des rencontres, des forums où les chefs de village, les chefs traditionnels, les leaders quand même de quelques villages se sont engagés à ouvrir presque une centaine d'écoles. C'est une très bonne chose. Mais on va rester à voir comment ils vont le faire, parce que les enseignants que j'ai, avec lesquels j'ai échangé, ils ont dit net, ils ne partent pas. À Séndégué, d'accord, il y a une base, à Dialobé, il y a une base, mais Séndégué et Dialobé représentent combien d'écoles fermées dans la région de Mopti? Peut-être si les enseignants de Séndégué et Dialobé se déplacent, par contre, les enseignants qui sont dans les cercles de Yuaru, Ténénkou, ils n'iront pas. Les enseignants qui sont dans une partie de Douanza n'iront pas dans les cercles de Koro, un peu partout dans la région. Ils n'iront pas parce que l'État même n'est pas là-bas, à plus forte raison, eux, ils partent. Surtout que eux, ils sont plus menacés parce que ceux qui se cachent derrière la religion pour dire que c'est des djihadistes, moi je les appelle des hommes armés, ce sont pas. Bon, en fait, c'est leur appellation qu'ils veulent, mais ce qui est sûr, eux, ils sont hostiles à l'école. Ils sont hostiles à l'organisation, certes, mais ils sont plus hostiles à l'école que tous les autres secteurs. Les hommes de santé, les agents de santé peuvent aller parce qu'ils ont besoin d'eux, les agents de développement également. Mais une fois qu'ils attendent que c'est l'école, ils disent que c'est vraiment une éducation des mécréances, ici ou cela, ils se cachent derrière ce vocable djihadiste pour combattre l'existence des écoles. Alors moi, je suis très pessimiste par rapport au retour des enseignants, de ces dizaines d'enseignants avec qui j'ai échangé, qui ont fui à cause de la sécurité, et d'autres même ont été dépossédés de tous leurs biens. Ils ont été sauvés in extremis. Je vois difficilement que ces enseignants retournent dans leur zone pour aller enseigner encore.
D'accord. L'Anfia, êtes-vous optimiste ou pessimiste par rapport à la rentrée scolaire qui devrait être effective cette année sur tout le territoire?
J'allais être optimiste si vraiment l'administration était présente, si les forces armées et de sécurité étaient présentes sur le terrain. Malheureusement, tel n'est pas le cas dans la plupart de ces zones-là. Et ça répond à l'autre aspect, l'autre volet de votre question quand vous disiez est-ce que l'État fait quelque chose. Dans cette zone-là, on peut dire que l'État ne fait pas quelque chose parce que l'administration n'y est pas, les préfets, sous-préfets, il n'y a personne. Moi, simple enseignant, comment voulez-vous que j'aille? En l'absence des gendarmes, des militaires, des gardes, des policiers, il n'y a aucune représentation. Et je pense que si nous sommes là, c'est parce que quelque part, l'État central, le gouvernement tout court, les autorités ont failli. Il ne faut pas avoir peur des mots. Ce qui est sûr, si l'administration était présente, on n'allait pas vivre cette situation-là. Et c'est là où c'est vraiment, on ne peut pas faire cadeau à ce régime. Parce que quand Ibeka venait en 2002, l'espoir, ça avait suscité de l'espoir. Le problème, c'était à Kidal. Aujourd'hui, on oublie Kidal, on est dans le centre. Il fallait prévoir ça, parce que gouverner, c'est prévoir. Malheureusement, on n'a pas été prévoyant à ce niveau. On a laissé la situation se dégrader petit à petit, avancer petit à petit, jusqu'à ce qu'arrive à un certain niveau où, vraiment, c'est devenu une sorte de no man's land. Il y a de ces localités, une fois que vous dépassez un seuil, c'est fini. Vous n'êtes plus dans le Mali, étant dans le Mali, parce que vous ne rencontrez aucune représentation, aucun symbole de l'État. Et c'est même imprudent de parler de l'État. Où en sommes-nous? Ce n'est pas sérieux. Il faudrait que ça change.
Hassan, les enfants de ces zones sont-ils punis?
Oui, ça c'est évident et ça c'est clair. Et c'est justement cette situation dans le centre du Mali par rapport aux 200 écoles ou peut-être même plus de 200 écoles qui sont fermées. Hein. Quand on fait un petit calcul, c'est des milliers d'enfants maliens qui ne pourront pas aller à l'école. Et c'est ici que toute la fiction juridique selon laquelle les enfants maliens naissent libres et égaux dans la Constitution a toute sa réalité. Où est l'égalité ici? Il n'y a pas d'égalité. Mais en même temps, je me dis que la situation de ces 200 enfants qui n'iront pas à l'école dans le centre du Mali ne doit pas prendre en otage la situation de tous les enfants du Mali aussi. Donc il faut travailler à ce qu'il y ait une rentrée scolaire rapidement et trouver une solution pour ces 200 enfants dans le centre du Mali. Mais en même temps, il est clair, hein, et comme on le dit en Bambara, on ne peut pas courir en même temps. Et bon, je vais utiliser le terme « gratter ses pieds mm-hmm. ». Et il est clair que la situation dans le centre du Mali peut s'expliquer parce qu'on est bien d'accord qu'à un moment donné, le dispositif sécuritaire du Mali ne pouvait pas faire face à cette situation. Et comme on dit de plus en plus qu'il y a des recrutements, il y a des formations, on espère qu'au bout d'une année, l'État pourra avoir les forces de sécurité à hauteur de souhait et reconquérir sa gouvernance sur tout le territoire du Mali. Parce que c'est clair, quand l'État ne sera pas dans ces zones-là, aucun enseignant n'ira se mettre en danger.
Et ont-ils raison?
Les anciens ont raison. Les anciens ont raison. Mais je ne pourrais même pas enseigner. Mais pourquoi aller me faire tuer? Je ne peux même pas enseigner. Je vais parce que j'ai une mission d'enseignement. Je vais m'installer, je ne peux même pas enseigner. D'abord, les enfants ne viendront pas en classe parce que les parents d'élèves sont menacés par ces individus-là. Et si les enfants venaient en classe, c'est l'enseignant qui est menacé par ces individus. Donc, ce n'est pas la peine d'y aller. S'il y a une sécurité qui est assurée, et c'est clair, aucun enseignant ne pourra refuser d'y aller. Ils ont raison, ils ne peuvent pas y aller. Ils ne peuvent pas aller se mettre en insécurité totale.
D'accord. Mamoudou Bokoum, est-ce qu'il y a une autre alternative pour ces enfants-là ou est-ce qu'ils vont être en retard par rapport aux autres?
Bon, il faut que l'État prenne sa responsabilité, d'accord. Les partenaires sont là pour nous aider. L'État est absent pour l'appuyer. Il y a des communes où il y a une base militaire et dans cette commune, on ne peut pas monter les drapeaux de l'État. La commune précisément de Fakala. Donc, c'est pour vous dire combien, là où on ne peut pas planter les drapeaux, monter les drapeaux du pays, est-ce qu'un enseignant peut aller enseigner là-bas? Et de surcroît, il y a une base militaire dans cette commune-là. Donc, il faut faire extrêmement attention.
Une base militaire de l'armée malienne ou...
De l'armée malienne est précisément à Soufara. Pour qui connaît la région, le cercle de Guinée, Soufara, c'est dans la commune de Fakala. Dans, là-bas, on ne peut pas monter les drapeaux, on les a menacés et le maire est d'accord, tout le monde est d'accord que personne ne monte les drapeaux dans la cour de la commune. De la mairie. Donc, c'est pour vous dire combien les gens ont peur. Là où on ne peut pas monter un drapeau, simplement, est-ce qu'un enseignant peut aller dans une brousse où il n'y a personne, il n'y a pas l'État, il n'y a pas la gendarmerie, encore moins la police ou l'armée. Est-ce qu'un enseignant ose sacrifier sa vie pour l'amour de son travail? Moi, je crois que c'est non. Mais maintenant, les dispositions qui sont en train d'être prises, c'est des dispositions avec les partenaires qui essayent de voir les gens qui sont récalés au niveau des différentes communautés pour enseigner les enfants, en tout cas encadrer les enfants sous la peur aussi, parce que s'ils sont au courant, ils vont venir te menacer nuitamment. Si tu n'es pas d'accord, ils t'enlèvent, ils te bastonnent ou bien en tout cas, jusqu'à l'ultime sacrifice, ils vont t'ôter la vie. Donc c'est un peu compliqué. C'est vrai, certes, des écoles ont été ouvertes à travers la négociation dans le cercle de Guinée, mais jusqu'à présent, les gens ont la peur au ventre. Donc on espère que la situation va améliorer, parce qu'il s'agit de milliers de vies de nos enfants qui sont en danger. Et ils sont vraiment exposés à tous les maux, même le terrorisme, parce qu'un enfant qui n'est pas instruit, qui n'est pas éduqué, vraiment, c'est bonjour les dégâts, quoi. Donc, les partenaires sont en train de faire quelque chose, mais il faut que l'État, comme l'a dit Hassané, il faut que l'État prenne ses responsabilités, que l'État soit présent dans ces zones pour qu'on puisse vraiment espérer voir une ouverture nationale comme on le souhaite.
D'accord, Hassan.
Oui, je voulais intervenir. C'est la dernière partie que beaucoup m'a mis en exergue. En réalité, il y a une urgence pour l'État malien d'intervenir dans cette zone. C'est-à-dire que l'État malien doit déployer les forces de défense et de sécurité dans cette zone pour assurer la sécurité de ces écoles-là rapidement. Parce que c'est quoi? On a l'impression que c'est un dispositif qui est mis en place pour empêcher ces milliers d'enfants d'aller à l'école et qui vont servir de vivier de recrutement après.
Donc il faut rapidement réfléchir à cette situation-là et travailler pour éviter que ce ne soit un vivier de recrutement. C'est ce dispositif-là, si on traîne jusqu'à 4-5 ans, ces enfants qui ont peut-être 10 ans aujourd'hui auront 15 ans. Ceux qui ont 11 ans auront 17-18 ans. Et ils n'ont aucune instruction, aucune formation. Ils seront recrutés par ces mêmes gars-là et qui vont grossir le nombre de leurs troupes. C'est-à-dire, si on a besoin peut-être de 2 000 personnes pour les combattre aujourd'hui, dans 5-6 ans, on aura besoin peut-être de 10 000 à 20 000 personnes. Donc, il faut qu'on aille rapidement pour... Il faut les étouffer dans l'œuf dès maintenant. Et on est en train de traîner les pas. C'est des milliers d'enfants dans cette zone qui ne vont pas à l'école. Et la zone est en train de s'élargir parce qu'on est en train de parler du centre du Mali. Mais ce n'est pas évident. Aujourd'hui, si on fait les statistiques, c'est clair que la bande est un peu descendue. Et ça descend, ça vient pratiquement vers la zone de 100, pratiquement maintenant. Donc à ce rythme-là, ils seront pratiquement vers la zone de Ségou. Et c'est toutes ces zones où on ne pourra pas aller à l'école. Et ça fait combien de millions d'enfants? Et sur 5 ans, c'est vraiment une armée destructrice.
Pour éviter cela, est-ce qu'il ne faudrait pas également déplacer ces enfants dans des zones plus sécurisées pour qu'ils puissent étudier en attendant que leur zone soit sécurisée par l'État?
Non, c'est une éventualité, mais je pense que ce que Hassan vient de dire, c'est très important. Le gouvernement doit vraiment en tenir compte, avoir le sens de l'anticipation pour qu'on ne puisse pas vivre pire que ce que nous vivons aujourd'hui. Parce que quelque part, si nous vivons cela aujourd'hui, c'est parce que les gouvernants ont manqué de vision. Et je pense qu'il a besoin des hommes, ce n'est pas pour le flatter, pour le conseiller. Vraiment.
D'accord. Est-ce que, comme alternative, vous voyez autre chose?
Comme alternative, comme vous l'avez dit, faire déplacer ces enfants-là en attendant que la situation s'améliore, se stabilise, on peut le faire, c'est une éventualité. Mais je pense que tous ces milliers d'enfants, les faire déplacer, ça ne va pas être une chose facile. C'est une éventualité, mais l'idéal quand même, c'est de créer les conditions afin qu'ils puissent rester sur place et qu'ils puissent étudier chez eux.
D'accord. Mamoudou Bokoum, est-ce qu'il y a un recrutement de ces enfants qui est envisageable sur place, sur le terrain?
Recrutement sur au niveau des groupes armés?
Oui.
Ils sont exposés à ça. Peut-être aujourd'hui, ils n'ont pas l'âge. Maintenant, s'ils n'ont rien à faire à 5 ans, 10 ans, c'est vraiment des potentiels guerriers et guerriers qui sont là. Et voilà, c'est des gens qui n'ont rien à faire. On te propose quelque chose avec une arme pour défendre, pour soi-disant défendre quand même ta zone. Tu es fier de l'être. Il faut les encadrer. L'éducation à l'école, ce n'est pas le diplôme seulement qui est important. C'est l'éducation même, c'est le changement social, le changement de comportement social même. De l'enfant. Donc, il faut qu'ils aient une certaine éducation pour connaître un peu le sens de la patrie, l'amour de la nation, etc., etc. Mais quelqu'un qui ne va pas à l'école n'a aucune notion de ces choses-là. Donc, c'est une potentielle bombe à retardement qui est en vue. Donc, il faut vraiment aller vite. Il faut que les uns et les autres, tous les responsables, à quelque niveau que ce soit, que chacun joue sa partition. C'est vrai, ils sont pour faire les DF, ils déplacent les gens. Mais je vous avoue que les parents qui ont accepté leurs enfants de quitter leur localité pour venir apprendre dans une autre localité sécurisée, ces parents ne peuvent pas rester dans leur zone là-bas parce qu'on va les tuer chez eux. Donc c'est pour vous dire qu'ils sont en train de tout faire pour empêcher les parents d'envoyer les enfants à l'école. Sinon, lors de la rencontre sur l'éducation, moi j'ai vu des parents qui sont vraiment très très engagés à ce que leurs enfants partent à l'école, ils le veulent. Chacun veut la lumière chez lui. Alors, mais ils ont peur. Ils ont peur parce que tu fais déplacer ton enfant, on sait qu'il est à l'école, on viendra te tuer dans ta famille. Tu vas faire quoi? À moins que tu ne quittes ton village, par exemple, quitter derrière le fleuve, venir à Mopti. Et à Mopti, comment tu vas vivre? Est-ce que les moyens sont là? Est-ce que les dispositions sont prises pour que tous ces enfants viennent à Mopti, qui suppose être une zone sécurisée, ou bien dans la ville de Tinenko ou Yoru, etc., dans les chefs-lieux de cercle? C'est un peu compliqué. Donc, il faut que l'État anticipe, il faut que l'État s'engage et que la population, elle aussi, s'engage, parce que quelque part, la population a failli ici. La population s'est vraiment engagée à dire niet à la présence de ces hommes armés. Je sais qu'ils ne vont pas tuer tout le monde en même temps. C'est vrai, on va dire que je ne suis pas là-bas, c'est pourquoi je parle de ça, mais je sais que, comme on le dit, l'union fait la force.
D'accord, espérons qu'une solution sera trouvée à cette situation. Parlons maintenant de la grève des magistrats. Hassan Kone, que pensez-vous de cet arrêt de travail des magistrats?
Bon, la grève des magistrats d'entrée de jeu, hein, moi j'ai dit simplement, si on accepte que les magistrats aient un syndicat, c'est qu'on a accepté que les magistrats revendiquent leurs droits. Ça veut dire que la grève, elle est reconnue par les textes du Mali. Voilà. Donc les magistrats ont droit à faire une grève.
Mais les conséquences de cette grève sur la population?
Oui, mais les conséquences, c'est ça un peu le problème. Bon, là, je suis, c'est ma tendance un peu syndicaliste aussi qui prend le dessus ici. Hein. Même journaliste, mais peut-être... Parce que le problème, c'est quoi? Quand une corporation décide d'aller en grève, il y a des dispositions au niveau de l'État. Il faut mettre ces dispositions en branle pour ouvrir les négociations avec la corporation pour limiter les conséquences de la grève sur la population et sur l'économie du pays. Mais ça fait combien de temps que ces beaux magistrats sont en grève dans la République du Mali et on a l'impression que personne ne veut leur donner une oreille attentive. On a cette impression. On a comme le gouvernement dit simplement, écoute, faites votre grève, on s'en fout de vous. On a cette impression aussi. Donc maintenant, est-ce la conséquence? À qui la faute? C'est le gouvernement qui est chargé de gérer les problèmes de la cité. Et la grève des magistrats, c'est un problème de la cité. Donc le gouvernement malien doit trouver une solution à cette grève-là. Et urgemment.
D'accord. Certains regrettent que les magistrats aient attendu que le gouvernement fasse des menaces pour faire certaines révélations.
Moi, c'est ce que je n'ai pas aimé de la part des magistrats. Quoi. Sinon, je pense que leur grève, c'est pour l'amélioration des conditions de vie et de travail. C'est légitime. Maintenant, il appartient à l'État de voir, bon, voilà, nous sommes à tel niveau, on peut s'engager, à tel niveau, on ne peut pas. Mais malheureusement, telle n'a pas aussi été, à mon avis, la réaction de l'État. Bon, là aussi, je peux comprendre cet État. Je le dis comme ça, rien ne me surprendrait. Parce que quand on a vu dans ce pays, dans ce même pays, on a laissé des médecins aller en grève des semaines. Des innocents sont morts cadeaux. Donc je me dis que si les magistrats vont et qu'ils ne vont pas les écouter, ça ne me surprend pas. Personnellement, ce que je n'ai pas aimé, c'est le fait qu'ils aient attendu tout ce temps pour faire ces révélations-là, quelque part.
Sont-ils complices dans ce cas de
justement, ces révélations? Justement, de ces révélations. Ça veut dire qu'ils savaient, mais ils se sont tus. Il a fallu que leur salaire soit menacé pour qu'ils fassent ces révélations-là. C'est là où je dis que c'est un peu... Tout ça, ça se fait au détriment du peuple. Or, et l'État et les magistrats, tout le monde, à chacun à son niveau, doit évoluer, doit exercer, doit s'engager à ce que le peuple puisse avoir une satisfaction, qu'elle soit morale ou encore financière, quelle que soit cette satisfaction. Mais malheureusement, j'ai eu l'impression qu'il y a eu une sorte de coup d'État contre le peuple. C'est pas bon.
D'accord. Mamoudou Boukoum, est-ce que l'impact de cette grève est visible chez vous à Mopti?
Très visible même. Vous savez, Mopti a un tribunal de grande instance quand même. Donc, l'impact est très visible parce que, d'abord, la population a besoin d'un certain nombre de documents qui sont fournis par le tribunal. Ça, c'est obligatoire qu'on sente l'impact. Et deuxièmement, il y a, pour ceux qui sont en prison, c'est vrai, il y a des gens qui étaient donc à la porte d'être libérés, mais avec cette grève, qui peut les libérer? Donc, ça se sent, hein, vraiment, la grève, c'est un droit, c'est vrai, et c'est leur droit de gréver. Mais jusqu'à présent, l'État ne peut pas, on ne peut pas laisser l'État en paix. Je ne peux pas comprendre que toute corporation qui fait une grève, il faut que cette corporation aille jusqu'à menacer l'État pour que l'État essaie d'enclencher une négociation. Tout ça, ce n'est pas bon, ce n'est pas normal pour un État vraiment sérieux entre guillemets. Il faut anticiper les choses. Donc, les magistrats aussi, les magistrats et l'État, bon, la population a compris que c'est des complices. Vous savez ce que l'État fait, nous savons ce que vous faites. Si vous ne faites pas ça, nous allons dénoncer ça. Vraiment, en tout cas, ça a été décrié par tout le monde, leur attitude vraiment qui n'a pas été, entre parenthèses, responsable. Le fait d'attendre à ce moment pour faire des dénonciations.
Des révélations, d'accord. Voilà.
Donc, alors, vraiment, 30 secondes à vous. L'État doit s'engager à résoudre tous ces problèmes qui concernent la société.
30 secondes. Est-ce que cela montre aujourd'hui que les magistrats couvrent l'État et ne sont pas au service de la population?
Mais la situation est très grave. C'est-à-dire, l'analyse que nous autres nous faisons de cette révélation-là, peut-être on n'a pas eu la même analyse du côté des magistrats. Sinon, ils n'auraient jamais dû poser cet acte-là. Parce que c'est comme si les magistrats disent au gouvernement, donnez notre part, sinon nous allons vous mettre sur la place publique. Parce qu'on sait que ce n'est pas sûrement le seul dossier qu'ils ont.
Ouais.
Ils ont plusieurs cas. Et maintenant, ils vont utiliser ça pour la menace contre le gouvernement, pour entrer, pour avoir gain de cause par rapport à leurs revendications. Et c'est ce qui n'est pas normal.
D'accord.
Le magistrat est censé être là pour protéger la moralité de la société. Et malheureusement, bon, ça pose problème énormément. C'est très grave ce qui s'est passé.
D'accord, merci. Temps écoulé. Merci à nos invités. Lamphia Sinaba, journaliste écrivain. Hassan Kone, journaliste à NotreNation.com et le journal Arc-en-Ciel. Et Mamoudou Bokoum, journaliste et coordinateur régional de l'Union des radios et télévisions libres du Mali à Mopti. Je suis Mohamedou Touré. Débat réalisé par la rédaction de Studio Tamani. Mise en onde assurée par Gagné Kanté à la régie vidéo. Peting Diara à vendredi prochain et bon week-end à tous les auditeurs et téléspectateurs de Studio Tamani.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani
Ouamakaran. Le Grand Dialogue de l'émission de débat de Studio Tamani sur votre radio.
Chenne Beri. Haloud Mouni.
Chenne Beri. Sigi Kafoba.